Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Cette semaine est paru l'album « 100 photos pour la liberté de la presse » de Reporters sans frontières, une association non gouvernementale qui défend la liberté d'informer et d'être informé partout dans le monde. C'est le photographe de guerre français Patrick Chauvel qui est à l'honneur de l'album de RSF cette année. Pour tout vous dire, je devais recevoir Patrick Chauvel dans cette émission. On avait pris rendez-vous pour qu'il vienne ici, en studio, à RFI. J'avais préparé un entretien où l'on aurait parlé des dizaines de conflits qu'il a couverts. La guerre du Vietnam, la guerre d'indépendance du Mozambique, la guerre civile au Liban, la Tchétchénie ou encore la bataille de Mossoul. Mais à 72 ans, Patrick Chauvel est parti couvrir la guerre en Ukraine pour le magazine Paris Match. Je vous lis ce qu'il a dit au journal Le Monde avant de partir. Si j'étais resté à Paris au moment où les Russes déclenchaient une guerre, je serais devenu fou. Je n'allais pas tailler mes rosiers. Je suis photographe pour vivre l'histoire et essayer de la comprendre. Et ensuite, essayer de la restituer en images. Journaliste de bataille, c'est ma vie. Fin de citation.
RFI.
On va donc attendre le retour de Patrick Chauvel pour parler de son travail et des évolutions du métier de photographe de guerre depuis 50 ans. L'album de RSF qui lui est consacré est disponible dans les librairies et chez les marchands de journaux français, ainsi que sur le site de RSF, rsf.org. Mais pendant le quart d'heure qui vient, je vous propose de voir ensemble comment s'informer en ligne sur la guerre en Ukraine.
Qu'est-ce que la censure quand Madame Fedorova, la directrice de RT France, dit que c'est de la censure? Est-ce que quand Vladimir Poutine fait bombarder la tour de télévision de l'Ukraine, est-ce que c'est de la censure ou pas de la censure?
Mais est-ce qu'on est obligé de reprendre les mêmes armes que les dictateurs, en fait?
Il y a quelques années encore, je travaillais sur ce qu'on appelle en anglais le « hard news », l'actualité chaude. J'en ai gardé certains réflexes dans ma veille informationnelle. Dès le premier jour de cette guerre en Ukraine, le jeudi 24 février, j'ai créé une liste Twitter des correspondants et des envoyés spéciaux de médias francophones présents à l'intérieur de l'Ukraine. C'est une liste Twitter publique que je tiens un jour quotidiennement, où vous trouverez des dizaines de journalistes français, suisses, belges ou encore canadiens. Ils partagent leur production, des photos, des vidéos, parfois des tranches de vie observées en reportage, ou même leurs sentiments. On y trouve évidemment le correspondant de RFI Stéphane Suhan ou encore le correspondant de France 24 Gulliver Krag. Tous les deux vivent depuis plusieurs années dans ce pays qu'ils connaissent donc très bien. Il y a aussi des envoyés spéciaux qui font un travail admirable depuis plus d'une semaine, ceux de France Télévisions, Radio France, du Monde, de l'AFP, de TF1 ou encore du Parisien.
Il y a eu encore ce matin une sirène qui a retenti dans toute la région de Kiev pour demander aux gens de se mettre à l'abri. Les raids aériens ont été meurtriers hier dans tout le pays et notamment à Kiev.
Lorsque des événements d'ampleur comme celui que nous vivons ont lieu, avec des informations évolutives et beaucoup de réactions, de nombreux médias font le choix de faire des live blogs, ces formats de publication en ligne qui sont évolutifs, minute par minute. Je vous invite à suivre ceux de RFI et France 24. Vous ne pourrez pas les louper, ils sont toujours tout en haut des sites internet et des applications mobiles de nos médias. Le travail remarquable de la rédaction du journal Le Monde sur son live est aussi à signaler.
Les hommes russes qui essayent de rentrer dans la capitale pour préparer le terrain et pour le semer.
Cette guerre dans un pays très connecté donne lieu à une importante quantité d'images amateurs, des images que les journalistes doivent analyser et décrypter avant d'éventuellement les relayer dans leurs médias. C'est ce qu'on appelle l'OSINT pour Open Source Intelligence, renseignement de sources ouvertes. J'ai décidé d'aller voir Derek Thompson, c'est le chef des observateurs de France 24, une équipe de journalistes spécialisée dans la vérification d'images. Salut Derek.
Salut.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, vous retrouvez ici avec l'équipe des observateurs à avoir beaucoup de photos, de vidéos à vérifier au quotidien. Y a-t-il un volume qui est énorme et qui est peut-être plus gros que ce qu'on a pu observer au cours des derniers conflits dans le monde ?
Oui, absolument. Le volume ici dans ce conflit en Ukraine, c'est énorme. Nous repérons tous les jours des centaines de vidéos et de photos amateurs qui ont été postées sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que c'est impossible de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. C'est pas impossible, mais c'est difficile.
Et donc, il faut pour cela avoir un savoir-faire spécifique en matière d'OSINT, donc le fait de vérifier des photos, des vidéos en source ouverte qui sont envoyées sur les réseaux et voir par qui elles ont été postées, quand elles ont été postées.
Oui, justement. D'habitude, avec la désinformation, les infox autour du Covid, etc., on peut avoir des sources fiables. On peut juste diriger les gens vers des sources fiables. Dans ce conflit, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de source entièrement fiable. Il y en a quelques-unes. Je pourrais vous donner un exemple dans un instant. Mais le problème ici, il faut prendre chaque document, chaque photo, chaque vidéo et vraiment regarder, scruter cette vidéo pour voir si c'était bien tourné là où on pense que c'était tourné et aussi quand on pense que c'était tourné. Donc il y a des techniques spécifiques pour cela. Ça s'appelle surtout le geolocation, c'est quoi en français?
La géolocalisation.
La géolocalisation, exactement. Donc pour ça, c'est plutôt du bon sens. Donc on regarde une vidéo, on cherche dans les vidéos des éléments qui peuvent indiquer le lieu. Donc par exemple, des monuments connus, ça peut être aussi les bâtiments, la forme des bâtiments. Ensuite, on recoupe ces informations visuelles avec ce qu'on trouve sur des sources publics comme notamment Google Maps et Google Earth, et on peut, si on pense que c'est dans cette ville, on peut trouver le même monument, et ça nous permet de géolocaliser là où il y a eu une frappe par exemple, et aussi le lieu sur lequel une vidéo a été filmée.
Et ce qui n'est pas évident, c'est de savoir à quelle date cette vidéo a été filmée. Pour ça, on fait comment? On regarde le nombre d'images similaires qui ont été postées au même moment, par exemple, les différents angles qui ont été postés, et on essaye de joindre certaines des personnes qui ont tourné ces vidéos.
Exactement. Donc pour la date, c'est plus difficile, comme tu dis. Donc nous ne savons que quand quelque chose a été mis en ligne. On peut vérifier si ça a été déjà mis en ligne avant. Très souvent, nous voyons des images du conflit de 2014 ou d'autres conflits. Donc ça, c'est facile. Mais si on ne trouve pas d'incidence vieille de cette vidéo, c'est impossible de savoir si c'était hier ou avant-hier ou le jour avant cela. Donc ce que nous faisons en ce cas, nous recoupons les informations que nous avons avec les autres informations qui sont déjà publiées par les médias, des autres informations dans les sources publiques, et on peut être presque sûr de la date. Si nous ne sommes pas sûrs de la date, nous ne disons pas qu'on est sûr de la date, on est ouvert, c'est important d'être ouvert quand nous n'avons pas toutes les informations, mais on peut très souvent avoir une très bonne idée de quand quelque chose s'est passé.
Et comment les observateurs de France 24 travaillent-ils au quotidien avec tout cela? Est-ce que vous faites une liste de toutes les vidéos à vérifier et comment est-ce que vous choisissez celles que vous allez vérifier?
Oui, nous commençons déjà la nuit. Nous avons une journaliste qui est en Amérique latine qui suit ce qui se passe la nuit. Elle commence en repérant des vidéos qui montrent des choses qui se sont passées la nuit. Ensuite, notre équipe à Paris, ils arrivent le matin. Ils ont déjà une liste de peut-être une vingtaine, une trentaine de vidéos à vérifier. On commence à les géolocaliser. Ensuite, d'autres vidéos arrivent dans la journée. Nous priorisons évidemment les vidéos qui sont chaudes, qui montrent un gros événement ou dans lequel on voit des attaques sur des civils, etc. Et on géolocalise, on vérifie ces vidéos en priorité.
Comment travaillez-vous avec d'autres fact-checkers de d'autres médias à travers le monde?
Ça, c'est extrêmement important. Nous faisons partie d'une communauté d'enquêteurs à sources ouvertes. Ça s'appelle OSINT, comme tu as dit, ça veut dire Open Source Intelligence en anglais. Et il y a un vrai esprit de partage, de collaboration toujours entre nous, surtout dans une période de guerre comme maintenant. Et nous participons à un projet très intéressant, et c'est la source fiable. C'est organisé par le Center for Information Resilience. C'est une ONG en Angleterre, le Centre pour la résilience de l'information. Et ils ont publié une carte qui géolocalise des centaines de vidéos qui ont été vérifiées. La carte s'appelle le Russia-Ukraine Monitor Map. Ça, c'est une source fiable et les membres du public peuvent aller sur cette carte et peuvent cliquer sur les points pour avoir des vidéos qui ont été vérifiées et géolocalisées.
On voit sur cette carte qui s'affiche sur ton ordinateur qu'il y a plusieurs niveaux de couleurs, vert, orange et rouge. Si je comprends bien, c'est en fonction de la gravité ou de la violence des images.
Exactement. Sur les points verts, c'est des images dans lesquelles il n'y a pas de violence, donc c'est surtout des mouvements de troupes. En orange, c'est des images où il y a eu des dégâts. Et ensuite, en rouge, c'est des images où on voit qu'il y a des gens qui ont été blessés ou qui sont morts.
Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de violence aussi dans ce conflit, beaucoup de violence aussi que du coup les équipes des observateurs de France 24 voient en vidéo tous les jours. Comment on gère cela ?
Il faut être vigilant. Nous sommes des professionnels, donc nous voyons beaucoup, beaucoup d'images qui sont très, très dures. ça peut être difficile. Donc, il faut que les managers, comme moi, que nous soyons vigilants là-dessus. Donc, nous parlons toujours de l'importance de ne pas penser trop à ces images quand nous rentrons chez nous, à nos familles le soir. C'est important de se séparer de cela. Et il faut être vigilant là-dessus.
Il y a des médias ukrainiens qui travaillent très bien aussi sur ce conflit. Avez-vous des échanges avec certains journalistes actuellement présents en Ukraine ?
Nous avons relativement peu d'échanges avec nos camarades, nos confrères en Ukraine parce qu'ils ont déjà plein de choses à faire. Nous avons beaucoup d'échanges avec d'autres enquêteurs à sources ouvertes ailleurs dans le monde. Par contre, nous sommes en contact avec des civils ukrainiens tous les jours. Toujours nous posons la même question. La première question, c'est toujours, est-ce que vous êtes en sécurité? Parce que s'ils ne sont pas en sécurité, ils ont autre chose à faire que de parler avec nous. S'ils sont en sécurité, ils peuvent nous parler de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Et s'ils ont filmé des choses en sécurité, ils peuvent nous envoyer leurs images aussi.
Pour les auditeurs de l'Atelier des médias qui souhaiteraient s'informer sur le conflit en Ukraine et qui souhaiteraient peut-être vérifier eux aussi des images qu'ils voient passer, quels doivent être leurs points de vigilance particuliers ?
Il y a beaucoup de propagande dans ce conflit. Les Russes sont très très forts sur la désinformation. C'est eux qui ont inventé la désinformation dans les années 30. Donc il faut, chaque fois qu'on voit un document en ligne, il faut penser que quelqu'un essaie de me tromper. Il faut avoir ce réflexe parce que c'est possible que quelqu'un essaie de vous tromper.
Pour les auditeurs de l'Atelier des médias qui souhaiteraient eux aussi regarder et peut-être essayer de vérifier certaines des images qu'ils voient passer en ligne, eh bien, il y a des tutoriels qui sont disponibles sur le site des observateurs. Donc, c'est observers.france24.com. Tout en bas, il y a une image où il est écrit le guide de vérification. Et en cliquant dessus, eh bien, il y a plein de ressources qui sont disponibles.
Oui, justement. Peut-être la ressource la plus utile pour votre audience, c'est la recherche d'images inversées. Donc, quand vous recevez une image, ça peut être une photo ou une vidéo, il y a des techniques qui sont expliquées sur notre site qui vous permettent de voir si ces images ont déjà été publiées sur Internet ou sur les réseaux. S'ils ont été publiées en 2017, en 2019, en 2020, c'est clair que les images ne sont pas de ce conflit.
Derek, alors qu'on est en train de parler, on a entendu le son des mails qui tombent dans ta boîte mail et le document sur ton bureau est ouvert où l'on voit bien les images qui sont en train d'être vérifiées au fur et à mesure avec une couleur jaune avec écrit « à vérifier ». Eh bien, vous souhaite bon courage à toute l'équipe des observateurs.
Merci beaucoup.
Derek Thompson, chef de l'équipe des observateurs de France 24. Avec lui, on a parlé d'OSINT, de renseignements d'origine source ouverte. De nombreux collectifs se sont mis au travail pour vérifier les nombreuses images qui nous arrivent d'Ukraine. Des collectifs qui sont parfois composés de simples citoyens qui développent une expertise. Et je suis plutôt de ceux qui estiment qu'il faut se réjouir qu'il y ait ce type de collectif, car il n'y a rien de pire que l'indifférence.
Ви прийшли, блядь, непрошені тварі, кончені.
À propos d'OSINT, un collectif créé en 2014 par le Britannique Elliot Higgins s'est imposé comme la référence. C'est Bellingcat. On doit à ses membres des enquêtes sur le vol de la Malaysia Airlines, abattu en 2014 par un missile russe au-dessus de l'Ukraine, ou encore cette enquête sur l'ex-espion russe Sergei Skripal, empoisonné par des agents de Moscou. Bellingcat est évidemment très actif depuis le début de la guerre en Ukraine. Ses équipes vérifient et archivent les images de ce qui constitue des crimes de guerre et des violations des droits de l'homme. Ce travail pourrait s'avérer très utile un jour en justice. Depuis le Covid, on a vu une multiplication des graphiques et des infographies dans les médias. Évidemment, on a tous en tête les courbes de l'épidémie de coronavirus. Depuis les premiers jours du conflit en Ukraine, ce sont les cartes que l'on a beaucoup vues dans les médias. Cartes des bombardements, cartes des mouvements de blindés. On peut noter la proposition du New York Times qui crée chaque jour de nombreuses cartes expliquant le conflit et ses mouvements. Mais attention en ce moment avec les cartes de certains médias qui pourraient parfois laisser croire que des territoires entiers sont tenus par tel ou tel belligérant, alors qu'il n'y a parfois que les axes routiers qui sont estimés sous contrôle après avoir été empruntés par des chars ou autres véhicules blindés. Les formats stories et vidéos sont également utilisés à bon escient par nombre de médias, mais aussi par des youtubeurs ou tiktokers. Il faut citer Hugo Décrypte, un français qui relaie et explique les informations sur l'Ukraine. Ces communautés sont immenses, 1,8 million d'abonnés sur TikTok. TikTok, 1,6 million sur Instagram, 1,5 million sur YouTube. Chaque jour, Hugo Décrypte donne les informations importantes à connaître sur l'Ukraine. C'est très efficace et très suivi.
Les dernières informations sur la guerre en Ukraine. Première information, les négociations viennent de se terminer entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine est très loin d'être satisfaite, mais tout de même, elle a obtenu l'instauration d'un couloir humanitaire. Concrètement, c'est un espace, une route que vont pouvoir emprunter les habitants afin de fuir les combats. On verra donc si ce couloir humanitaire est respecté dans les prochains jours.
Depuis mercredi 2 mars, deux médias russes financés par le Kremlin, RT et Sputnik, sont interdits de diffusion dans l'Union européenne. Plus tôt, ils avaient déjà été bannis de Facebook, YouTube, Telegram et TikTok. Une mise au ban qui soulève des questions en Europe, notamment sur le cadre juridique de cette interdiction. L'ARCOM, l'autorité française de régulation des médias et du numérique, ne s'était jusqu'à présent pas résolue à couper le signal de RT. Changeons de perspective maintenant. Quelle est la situation dans les médias russes? Tout d'abord, il faut savoir que les médias, quels qu'ils soient en Russie, ont l'interdiction d'utiliser ces jours-ci le mot « guerre » pour parler de la situation en Ukraine. Ils doivent utiliser l'expression « opération militaire spéciale ». Novaya Gazeta, titre indépendant plusieurs fois primé, dont le rédacteur en chef a reçu en 2021 le prix Nobel de la paix, a été contraint de supprimer les articles où apparaissait le terme de « guerre » sous peine de fermeture. La radio Écho de Moscou, bloquée depuis le 1er mars par les autorités russes en raison de sa couverture des événements en Ukraine, s'est sabordée ce mercredi. Alors les Russes, dans tout ça, comment s'informent-ils sur la guerre en Ukraine? Pour répondre à cette question, j'ai téléphoné à Julien Nocetti. Cet enseignant-chercheur travaille depuis bientôt une quinzaine d'années sur la Russie. Bonjour Julien Nocetti.
Bonjour.
L'internaute russe lambda peut-il ne pas savoir qu'il y a actuellement une guerre en Ukraine et des soldats russes qui meurent là-bas?
Effectivement, il y a une question très très prégnante aujourd'hui en Russie même par rapport à la situation en Ukraine où finalement l'enjeu informationnel qu'on a, nous, à l'esprit, en Europe ou aux États-Unis, n'est pas forcément appréhendé de la même manière en Russie, non seulement parce qu'il y a évidemment des pratiques de contrôle de l'accès à l'information, sur lesquelles on va peut-être revenir, mais également un relatif désintérêt pour les sujets de politique étrangère et de sécurité en général. Alors évidemment, ce sont des thématiques qui peuvent revenir à intervalles réguliers en Russie, avec, je pense notamment à la campagne en Syrie à partir de 2015, hein, qui au départ a eu très peu d'écho finalement dans les médias russes, une thématique qui n'intéressait pas forcément le russe lambda, surtout s'il vivait loin des grandes métropoles, hein, que sont notamment Moscou et Saint-Pétersbourg. Et donc ça, voilà, ça pose à la fois un questionnement là, d'accès à des ressources médiatiques indépendantes aussi par rapport au narratif officiel martelé par le Kremlin, mais également par une fragmentation aussi, hein, de cette population russe qui est relativement lasse finalement de ces enjeux géopolitiques par rapport à des enjeux beaucoup plus prosaïques, hein, que sont le pouvoir d'achat et finalement les questions de lutte contre la corruption au niveau local. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça montre aussi un rapport de ce russe lambda que vous évoquiez, qui est peut-être différent par rapport à des biais ou des présupposés qu'on peut avoir.
À quoi ressemble concrètement le contrôle que peut avoir l'État russe sur les plateformes? Je pense notamment à VK, VKontakte, qui est le Facebook russe, et Yandex, qui est l'équivalent de Google en Russie.
Alors la stratégie de contrôle russe, elle est à la fois très complexe et elle est intervenue en différents temps. Alors il y a d'un côté, notamment dans le cas de VK, de VKontakte, hein, une stratégie qui a commencé il y a une petite dizaine d'années de contrôle capitalistique. Il s'est agi non seulement de faire pression sur le cofondateur, Pavel Durov, qui a ensuite rapidement émigré, mais ensuite toute une stratégie en 2-3 temps de reprise de contrôle. Hein, des parts de la société qui ont été accaparées par des proches de Vladimir Poutine, notamment un oligarque assez présent dans le champ médiatique qui s'appelle Alisher Usmanov et qui a constitué une sorte de conglomérat autour de sociétés présentes dans l'énergie mais aussi des télécommunications et plus récemment de l'économie numérique. Donc VK est un petit peu finalement l'espèce de vitrine aujourd'hui, hein, au départ d'une scène numérique russe assez libertaire, avec des opinions très contestataires qui pouvaient y circuler, mais depuis 2013-2014, surtout avec les débuts d'opérations en Crimée et dans le Donbass, il y a eu une vraie reprise en main capitalistique et idéologique aussi, puisqu'il s'est agi d'avoir un mot à dire sur les thématiques les plus polarisantes, les sujets tabous, hein, évidemment, qui étaient diffusés. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, qui est peut-être plus compliqué à appréhender, c'est le cas d'Yandex, effectivement, qui est peut-être le symbole des réussites d'une économie numérique russe qui s'était différenciée en partie par rapport à la scène évidemment américaine ou chinoise. Sur un plan très symbolique, Yandex avait été créé un an avant Google, hein, en 1997. Donc ça montre aussi bien qu'il y avait eu des tentatives aussi d'organiser une scène numérique. Alors non pas nationale ni étatique, mais vraiment de façon très indépendante. Et pendant presque 15 ans, Yandex a fonctionné en totale indépendance par rapport à un contrôle étatique. Là aussi, les velléités de contrôle sont intervenues davantage par le biais, hein, des capitaux, évidemment, et par une stratégie d'entrisme aussi, très logiquement au sein du conseil d'administration. Et petit à petit, le Kremlin a sécurisé une golden share, hein, donc 25% de contrôle de la société, qui s'est petit à petit accru au fur et à mesure de la façon dont la scène politique russe commençait à se tendre, à se crisper, notamment en lien avec des protestations visant précisément un contrôle plus soutenu d'Internet. Donc il y a un lien entre tout ça, et pour revenir brièvement et rattacher ce sujet à ce que vous évoquiez en termes de Russe lambda, on a quand même souvent coutume depuis une dizaine d'années de distinguer à grands traits une Russie de la télévision, hein, donc qui accède avant tout à la télé d'État, aux grandes radios d'État également, et ce sont plutôt des Russes qui sont des retraités, également des fonctionnaires, hein, évidemment des administrations russes, mais également des grands conglomérats d'État, hein, dans l'énergie, dans l'armement en particulier. Et à côté de ça, vous avez une Russie d'Internet, qu'on peut aussi évidemment analyser plus finement, mais qui est globalement plus jeune, plus urbaine, hein, très présente évidemment dans les grands centres comme Moscou, Saint-Pétersbourg, et puis d'autres grandes métropoles en Sibérie, comme Novosibirsk, ou dans l'Oural, Yekaterinbourg, et avec parfois des mouvements de coordination citoyenne ou de protestation aussi qui sont organisées via les outils numériques dans ces grandes villes, et ce qui a donné lieu à toute une scène, et toute une scène militante, et à beaucoup de stratégies de contournement par rapport à des mesures de plus en plus restrictives au fond, hein, depuis 2012 et le retour de Poutine au Kremlin.
Quand on parle de désinformation dans le monde, on associe parfois cela à la Russie, aux bots russes sur les plateformes sociales. Il y a aussi une longue tradition de détournement d'images en Russie. D'ailleurs, peut-être pourriez-vous nous dire de quand elle date. Et je voulais vous demander, a-t-on observé une accélération de la diffusion de fausses informations et de fausses images depuis le début du conflit en Ukraine ?
Alors, il y a effectivement tout un héritage soviétique qui est exploité par évidemment les principaux décideurs russes actuellement, hein, à la fois dans les armées, mais peut-être surtout par les services de renseignement, à commencer par le FSB, le principal service de contre-espionnage en Russie, d'où est issu Poutine. Et c'est vrai que là, les doctrines, les pratiques soviétiques en matière de propagande, de désinformation, de subversion, de forgerie, hein, c'est-à-dire de production de faux documents, de fausses photos, de faux reportages, étaient quand même très documentées et bien présentes. Hein. C'est-à-dire qu'on a peut-être tous en mémoire cette fameuse photo dans nos manuels d'histoire au lycée qui présentait des photos truquées par l'équipe de Staline qui effaçait régulièrement sur les photos certains décideurs du parti dans les années 20 et les années 30. Donc c'est quelque chose qui est bien connu, non seulement pour évidemment préserver la susceptibilité du grand chef, mais aussi évidemment dans le cas de crise ou de conflit pour avoir un effet, hein, direct sur la population ou vis-à-vis de cibles d'adversaires à l'étranger. Donc il s'agit d'abord, là on est vraiment dans une optique informationnelle, de lutte informationnelle. En interne, ça va consister à préserver tout potentiel de contestation de la part de la population, soit au niveau local ou carrément au niveau fédéral, et vis-à-vis de l'étranger, proche comme lointain, donc proche espace post-soviétique et lointain le reste du monde, à commencer par l'Europe et les États-Unis, il s'agira de semer le doute, la confusion, hein, d'entretenir tout un flou qui sera ensuite exploité par différents narratifs stratégiques qui sont disséminés par des médias d'État russes ou par des décideurs, hein, civils comme militaires. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment revenu en force à partir de l'opération en Crimée et dans le Donbass en 2014, hein, qui a vraiment été un cas d'étude au fond qui est aujourd'hui répliqué à une échelle évidemment de conflictualité tout à fait différente, bien sûr, avec des implications tout autres. Il y a un autre héritage entre guillemets qui est très bien exploité, hein, qui a constitué une forme de test pour la Russie. Ça a été son engagement en Syrie. On a à partir de 2015 un engagement militaire direct qui a été peut-être davantage perçu par nous en Europe sous son versant militaire direct, hein, donc le versant opérationnel, mais sans prendre forcément en compte tout le nuancier des tactiques et des moyens mobilisés par la Russie, parce que dans cette pratique russe, il y a non seulement évidemment la volonté de d'influer sur les perceptions, si besoin, en truquant des photos, des documents, ce qu'on évoquait à l'instant, mais également de mettre sur un même plan la dimension technique, donc des cyberattaques, ce volet cognitif, hein, donc d'agir sur des perceptions, et puis d'autres aspects peut-être plus militaires, hein, notamment la guerre électronique, c'est-à-dire brouiller les communications adverses, jouer aussi sur les nerfs de la partie adverse, en déployant des boucliers antimissiles, en usant du vol de bombardiers dans l'espace aérien adverse, etc. Tout s'est mis sur un même plan, et ce qui distingue d'ailleurs la Russie de ses adversaires occidentaux, et c'est ce qui est très difficile à dissuader, à contrer, ce qu'on va forcément très très bien voir dans le contexte présent en Ukraine.
Les antennes et les sites de médias d'État russes comme RT et Sputnik ont été coupés dans l'Union européenne. Quand on est un citoyen russe, comment s'informer sur la guerre en Ukraine actuellement? Et peut-on, lorsque l'on est en Russie, accéder aux sites de médias européens ou américains, par exemple à l'aide d'un VPN?
Alors, on peut toujours s'informer. Il y a un rétrécissement de la marge de manœuvre, hein, évidemment, de cette fenêtre d'information politique, hein, pour les citoyens russes. Il y a toujours la possibilité d'utiliser des VPN, mais là aussi, c'est un domaine, hein, comme Tor, le réseau qui permet d'anonymiser des connexions, qui a été la cible de différents trains de mesures de la part des autorités russes depuis 2016, avec une loi qui est restée fameuse parce qu'elle a été baptisée du nom de la parlementaire qui l'a martelée sans cesse au Parlement, à la Douma, hein, les lois Yarovaya, et qui ont vraiment visé de près non seulement Tor, mais aussi l'usage de VPN, hein, qui sont très très utilisés par la population russe, notamment la jeunesse la plus connectée, la plus numérisée, on va dire.
C'est-à-dire que sans ces VPN-là, on ne peut pas accéder au site de RFI ou de France 24, par exemple, actuellement?
Absolument, avec, dans cette stratégie de contrôle, un rôle majeur qui est confié à une instance qui s'appelle Roskomnadzor, qui, si je me risque à une comparaison, serait une sorte de CSA et d'ARCEP puissance 100, avec des prérogatives étendues justement pour contrôler non seulement les réseaux informatiques, mais également avoir une activité de censure par rapport à des termes, à des enjeux qui sont aujourd'hui visés de près. Par exemple, ce qui est tout à fait notable dans le débat aujourd'hui, dans l'information qui est publiée en Russie actuellement, c'est l'interdiction d'user des termes de guerre ou d'invasion. Donc là, on parle d'opération spéciale, de maintien de la paix, avec tout un narratif adoucissant qui peut rappeler dans une certaine mesure ce qui est employé en Chine, avec toute une série de termes, d'expressions qui justement sont une sorte de nouvelle terminologie pour éviter que les internautes russes, ici en l'occurrence, fonctionne par mots-clés et ensuite accède à une information qui justement est bien réelle et bien factuelle sur les événements en Ukraine.
Pour terminer, parlons de la maîtrise des infrastructures de connexion et de diffusion que le pouvoir russe souhaite avoir. Et parlons notamment de ce projet d'Internet russe, le Runet, par la loi donc d'un Internet souverain, sûr et durable qui date de décembre 2019. Où en est ce projet? Et pourrait-on s'attendre à ce que la Russie soit débranchée de l'Internet mondial?
Ça, c'est une vaste question et qui est très très politique. On dépasse de loin la seule dimension technique, hein, voilà, de régulation, de fonctionnement, de bonne gouvernance finalement du réseau Internet en Russie et au-delà, dans les grandes instances qui sont chargées de la gouvernance mondiale du réseau. Donc ce sont des questions qui sont extrêmement complexes parce que vous avez un mode de fonctionnement en Russie à ce niveau-là qui est franchement basé sur la loi. Il y a eu une cascade de législation en Russie qui ont été adoptées depuis 2012, depuis le retour de Vladimir Poutine au Kremlin, pour essayer d'encadrer non seulement les contenus, mais aussi les infrastructures numériques du pays. Ça, c'est un aspect qui a été très sous-estimé en Europe aux États-Unis parce qu'on avait davantage à l'esprit, dans les doctrines politiques étrangères, les questions de censure, d'accès à l'information. Il y a évidemment, à partir de l'affaire Snowden en 2013, toute une sensibilité dont on a pris conscience là aussi par rapport aux câbles sous-marins, par rapport aux câbles terrestres, aux fibres optiques, par rapport aux serveurs, aux routeurs, aux data centers, hein, les centres d'hébergement de données, qui constituent tout le versant matériel du cyberespace. Et ça, le pouvoir russe a évidemment compris toute la sensibilité le caractère stratégique à pouvoir contrôler les données, notamment des citoyens russes selon cette loi en particulier, doivent pouvoir être stockés sur le territoire russe et non dans des serveurs qui font circuler ces données, hein, sur des serveurs contrôlés par les grands acteurs des services cloud, hein, que sont Amazon, Microsoft et Google, donc acteurs américains qui évidemment sont dans le viseur, hein, des législateurs russes. Donc ça, c'est un premier point, c'est une action par la loi tous azimuts qui a vraiment essayé de replacer au centre du jeu politique ces infrastructures numériques. Et la loi, plus globalement, la loi pour Internet souverain, elle consiste également à être en mesure, en cas de crise. Alors il y a tout un flou autour de la terminologie, hein, on peut interpréter différentes choses par le mot de crise, d'être en mesure de dupliquer le réseau Internet mondial tel qu'on le connaît et tel qu'il est consulté par et pratiqué par les Russes avec une sorte d'intranet national, hein, donc un Runet souverain avec des guillemets qui serait totalement étanche finalement du réseau mondial. Donc ça, c'est un système à la chinoise, très très schématiquement, à ceci près que en Chine vous avez un espace numérique national qui a été conçu techniquement dès le départ, dès la commercialisation d'Internet en Chine, comme étant totalement étanche.
Donc là, ça ne pourrait pas être faisable du jour au lendemain, en fait. C'est-à-dire que le pouvoir russe ne pourrait pas décider demain, par exemple, de débrancher son Internet, ou alors il pourrait potentiellement couper ponctuellement certaines grandes agglomérations d'Internet dans le cas où il y aurait des troubles, par exemple?
Alors absolument. Ça, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle, voilà, le recours au kill switch, hein, le fameux bouton rouge pour justement couper l'accès à Internet à une échelle peut-être plus localisée. Il y a un précédent en 2018 lors des élections locales assez tendues dans certaines régions ou localités de la Fédération de Russie, en Ingouchie, donc une république du Caucase du Nord, les autorités locales, avec évidemment l'aval du FSB, ont décidé de couper l'accès à la population, Internet à la population, pour éviter des débordements populaires. Là, la question dans le cas présent de cet Internet souverain, c'est: est-ce que les autorités russes sont techniquement en mesure de répliquer ce mode de fonctionnement à l'ensemble du territoire de la Fédération, qui pour rappel s'étend sur 11 fuseaux horaires, est loin d'être totalement étanche, hein, avec quelques dépendances numériques là aussi bien présentes, vis-à-vis de services cloud américains, vis-à-vis d'acteurs de télécommunications chinois en particulier. Donc c'est pour ça qu'il faut relativiser cette dimension d'Internet purement souverain, qui est peut-être avant tout une forme de rêve politique aussi de la part des décideurs russes, hein, qui ont souvent, dans la sphère technologique, depuis une décennie, cherché à agir par mimétisme, hein, par rapport à ce qu'a entrepris la Chine, qui est perçue de façon totalement fantasmée aussi par les décideurs russes. Donc il y a cette donnée qui joue, à mon sens, de façon assez forte, et sur un plan peut-être plus industriel, on va dire, il y a eu aussi un vrai frein, de vraies réticences de la part des acteurs nationaux des télécommunications et de l'économie numérique à coopérer avec les autorités russes sur cet Internet souverain qui, ils le savaient dès le départ, allait porter un coup d'arrêt quand même assez brutal à leur profit. Donc c'est quelque chose qui est bien appréhendé aujourd'hui et qui a des impacts vraiment multiformes pour la Russie, à la fois sociétaux, parce que pour le coup il y a la question de la liberté d'accès à l'information, au-delà du discours étatique, des impacts économiques et évidemment des impacts potentiellement politiques, parce que il restera à voir la façon dont les citoyens russes subiront ce type de projet souverain, ou alors essaieront de contourner à tout prix tous les dispositifs réglementaires mis en place par les autorités du pays.
Merci Julien Nocetti. Je rappelle vos travaux donc sur le contrôle des médias et des canaux numériques en Russie. Je rappelle aussi que vous êtes enseignant-chercheur à l'Académie militaire de Saint-Cyr et chercheur associé à l'IFRI. À bientôt dans l'Atelier des médias.
À bientôt.
Offended when nobody's watching. Are you an attacker, a victim? Do you carry the burden of this privilege? Do you see this guilt as leverage?
Vous écoutez RFI et comme chaque semaine, on termine l'atelier des médias avec Mondo Blog Audio qui fait entendre les blogueuses et blogueurs francophones de la radio mondiale. À l'approche du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, écoutons une Mondo blogueuse togolaise, Audrey Koubodena. Elle nous dit ce que devrait être en théorie cette journée et ce qu'elle est dans la pratique chez elle au Togo. Un 8 mars entre déception, espoir et revendication.
Le 8 mars n'est pas une fête. Cette journée n'a pas été décidée pour faire joli. Le 8 mars, les femmes ne doivent pas accepter de cadeaux parce que ce n'est ni la Saint-Valentin ni la fête des mères. Le 8 mars n'est pas une journée en l'honneur des femmes. Non. Le 8 mars a été créé dans une perspective militante. C'est une journée de lutte. C'est la journée internationale de lutte pour les droits de la femme. Une journée de réflexion et non de récréation. Aujourd'hui, les femmes veulent moins de paroles et plus d'actions, plus de respect et plus de considération. Détourner le sens de cette journée en offrant des cadeaux aux femmes, c'est soit de l'ignorance, soit de la mauvaise volonté, soit karma du sexisme. Arrêtons avec les fausses promesses. Quand parlerons-t-on vraiment d'égalité, de respect des droits? Chaque jour, les femmes sont victimes de nombreuses violations de leurs droits les plus élémentaires. Cette journée est faite pour rappeler le chemin qui reste à parcourir en matière d'égalité entre les sexes. Le 8 mars n'est donc pas du tout une fête. Et si on y réfléchit bien, c'est plutôt une journée pour pleurer. Pleurer de colère. Colère pour toutes les discriminations vécues au quotidien. Saluons celles qui se battent pour une meilleure communauté autour d'elles. Celles qui sont engagées localement pour porter haut les revendications des femmes. Et rappelons que le 8 mars, c'est aujourd'hui, mais c'est aussi demain et tous les jours de l'année. Alors, aujourd'hui je dis, vive la journée et tous les jours de lutte pour les droits des femmes.
Mondoblog.org.
C'était Audrey Koubodena, mondoblogueuse togolaise. Et je vous rappelle que le concours pour agrandir la famille Mondoblog est toujours en cours. Jusqu'au 15 mars, vous pouvez devenir une blogueuse ou un blogueur de RFI. Pour ça, il faut candidater, nous soumettre un article, ou un podcast même, qui sait, sur le thème de cette année. Toutes et tous actrices et acteurs du changement, parce que le monde de demain est encore à inventer. Toutes les infos sont sur concours.mondoblog.org. C'est la fin de cette émission, réalisée par par Simon de Creuse. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict ou encore l'appli Radio France. Sur toutes les plateformes où vous le pouvez, mettez des étoiles au podcast de l'Atelier des médias et postez des commentaires pour que ce programme que vous écoutez ait davantage de visibilité et puisse donc être encore plus suivi. Pour me contacter, un mail atelier@rfi.fr ou un message sur Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias. Don't say we need to build a wall. Say, I'm a world citizen. I don't believe in borders.